14 jours isolés, les 180 Français rapatriés de Wuhan en Chine, dans un camp de vacances à Carilrouet, près de Marseille, où les habitants ne sont pas tous rassurés. Le Brexit et après, le Royaume-Uni hors de l'Union Européenne depuis minuit, 11 mois de négociations entre Londres et Bruxelles à venir. En France, le grand oral des candidats à la mairie de Paris sur le logement. Votre invité à 8h20, Eric.
L'historien Benjamin Stora pour son livre « Retour d'histoire, l'Algérie après Bouteflika ». Ce livre vient de paraître chez Bayard.
Et puis dans 10 minutes, le journal des sports de Clément Comte, le sport au féminin à l'honneur tout ce week-end à Radio France. Et puis la finale d'âme ce matin en tennis en Australie.
France Inter.
Des chambres individuelles, décorations minimalistes, 180 rapatriés de Wuhan ont passé une première nuit dans un centre de vacances à Carilrouet, station balnéaire près de Marseille. Un centre dans lequel ils vont rester 14 jours, isolés, surveillés par du personnel médical, mais des forces de l'ordre aussi. Obligation de porter un masque en dehors des chambres, pas le droit de sortir. Des conditions très strictes qui ne rassurent pas pour autant certains habitants de la commune. Benjamin Elie a assisté à une réunion publique hier soir.
C'est parti cette réunion, monsieur le maire ?
Ça va partir. Jean Montagnac, maire de Carilrouet, président du territoire Marseille-Provence. C'est 180 Français, il faut quand même les accueillir. Il y en a un qui a dit qu'il fallait les mettre au château d'If. Je ne sais pas si c'est délicat comme réponse. Voilà.
Vous habitez juste à côté, c'est ça ?
Oui.
Quelles sont vos craintes, vous ?
La contamination. Surtout si les autorités nous disent le contraire. Nous ne leur faisons pas confiance.
Il y a un climat de psychose. J'ai vu des gens, deux personnes, le matin, et alors que les cars n'étaient pas arrivés, avec des masques.
Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs.
Et pour répondre aux questions, le directeur général de l'Agence régionale de santé, Philippe Demester.
Vous ne courez aucun risque.
Bonsoir. Et comment vous êtes sûr qu'à moins de 3 mètres, on ne peut pas être contaminé ? Et peut-être 10 mètres avec un coup de vent ou autre chose.
On lit des horreurs sur les réseaux sociaux, des choses abominables et beaucoup de bêtises. Avec le niveau de précaution qu'on a pris, vous ne courez aucun risque.
Il n'habite pas à côté, lui.
Ils ont essayé encore une fois de nous enfumer. C'est très flou.
Alors certains, certaines ont séché la réunion.
Claude.
Votre âge ?
90.
Certains sont un peu inquiets dans la commune.
Ils ont besoin d'un petit peu d'instruction peut-être, sinon d'intelligence. Un virus, ça ne se promène pas avec deux ailerons et vous attaque comme dans les films de science-fiction. Il n'y a pas de quoi être inquiet.
À Carilrouet.
Voilà, j'ai tout dit.
Benjamin Hidi, France Inter.
Voilà, un peu d'inquiétude autour de centres de vacances. Et à l'intérieur, quelle est l'ambiance ? Eh bien, elle est plutôt légère, raconte Sébastien Ricci, il est journaliste à l'agence France Presse, rapatrié après un reportage à Wuhan.
Les gens ont plutôt tendance à prendre ça à la légère, à rigoler quand quelqu'un va éternuer ou va tousser, comme ça peut arriver à chacun d'entre nous pour des raisons qui ne sont absolument pas liées au coronavirus. Les gens prennent ça à la légère, rigolent en disant « arrête de tousser, si tu as le virus, tu risques de contaminer tout le monde ». C'est vraiment une ambiance comme si des gens se retrouvaient pour passer une aventure ou passer 14 jours ensemble dans un centre de vacances. Sauf que nous, on ne l'a pas choisi.
Des propos recueillis par Tommy Cataneo, interview à retrouver sur franceinter.fr. Et ce numéro vert mis en place aujourd'hui par le ministère de la Santé sur le coronavirus, c'est le 0800 130 3x0, de 9h à 19h. En France, 6 cas détectés. En Chine, on est proche des 12 000 et 259 personnes sont mortes.
Aujourd'hui, 1er février, et donc depuis minuit, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union Européenne.
Oui, 3 ans et demi de feuilleton depuis le référendum qui a divisé le pays. À 23h de Londres, des milliers de pro-Brexit se sont rassemblés près du Parlement de Westminster, drapeau britannique à la main, chant patriotique. Boris Johnson, lui, s'est fait plus discret. Le Premier ministre s'est adressé à la nation dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Antoine Gignot.
3 minutes 30 de discours et pas une seule fois le mot Brexit. Mon travail, c'est de rassembler, lance Boris Johnson. Et le Premier ministre déroule son programme. Nous allons contrôler l'immigration, libérer l'industrie de la pêche, faire diminuer le nombre de crimes, améliorer l'éducation et le système de santé. Pas de précision en revanche sur les futurs accords commerciaux entre Londres et Bruxelles qui doivent être négociés dans les 11 mois qui viennent. Boris Johnson parle de coopération amicale, mais en coulisses, une source gouvernementale explique dans le Télégraphe, le journal conservateur, qu'il y aura des taxes sur l'ensemble des produits européens. Disparue l'idée d'un commerce le plus fluide possible. Les fonctionnaires ont déjà été avertis. Ils ont jusqu'au 31 décembre pour mettre en place de nouveaux dispositifs aux frontières du Royaume-Uni. Il y aura de graves conséquences sur les chaînes d'approvisionnement, explique en réaction l'un des responsables de l'association des transporteurs routiers, et potentiellement des périodes de pénurie de produits frais l'an prochain. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Aux États-Unis, le vote dans le procès en destitution de Donald Trump devrait avoir lieu mercredi prochain. Hier soir, les sénateurs ont décidé de ne pas convoquer de nouveaux témoins. Le président américain sera sans nul doute acquitté par un Sénat dominé par les Républicains. Procès alors que la primaire des démocrates débute lundi dans l'Iowa.
En France, l'actualité des municipales dans un mois et demi.
Le Premier ministre Édouard Philippe, officiellement candidat à Wavre, tenait meeting hier soir à Paris. Dans cette campagne, on parle beaucoup d'environnement, de transport et de logement. Et bien hier soir, lors d'un débat, la Fondation Abbé Pierre a interpellé les candidats présents au cœur des discussions. Claire Chaudière, les classes moyennes et populaires qui quittent la capitale.
Pour éviter la fuite des ménages parisiens, l'investissement doit être massif. Martelle Anne Hidalgo qui propose de créer une société immobilière publique-privée pour des logements en dessous des prix du marché.
Pour loger toutes ces classes moyennes, il faut aller chercher de l'argent et de l'investissement.
Tout en étoffant encore le parc social, déjà 23% des logements parisiens. L'écologiste David Belliard veut monter lui à 30% de HLM en 2030 et beaucoup plus d'espace vert.
Vous avez 200 hectares de friches SNCF. J'ai proposé qu'au minimum 100 hectares soient consacrés aux espaces verts.
Autre priorité, celle du marcheur dissident Cédric Villani.
Cet énorme réservoir que sont les logements vacants, les résidences secondaires, nous devons tout faire pour les ramener à la location.
Via une taxe beaucoup plus dissuasive. Daniel Simonet pour la France Insoumise veut de son côté agir sur les loyers.
Pour l'encadrement des loyers, si la municipalité récupérait la compétence, on pourrait faire comme à Berlin, baisser les loyers.
Autre urgence selon elle, la création d'un service public des punaises de lit. Approbation de Benjamin Griveaux.
Les punaises de lit, je vais vous dire, c'est un excellent sujet. Je rends assez rarement hommage à la France Insoumise.
L'hommage s'arrêtera à la construire. Oui, conclut le candidat LREM, mais pas plus de logements sociaux et plutôt en petite couronne qu'intramuros.
Et sachez, Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre, sera l'invité d'Alexandra Ben Saïd. On n'arrête pas l'écho après le journal de 9h d'Inter.
Un gang d'adolescents et de jeunes majeurs homejackers démantelés dans le Nord.
Oui, des cambriolages en présence des occupants. Bien, 6 personnes ont défilé hier devant le juge, ont été déférées. Précision Emmanuel Leclerc.
L'alerte avait été donnée dans la nuit du 23 décembre à un groupe de jeunes multipliés des attaques en commençant dans un pavillon sur la commune de Bailleul, près de Lille. Des braquages à domicile en pleine nuit, parfois très violents. Véronique Jacob est la chef de la Sûreté départementale du Nord.
Les personnes réveillées en sursaut en pleine nuit avaient plus ou moins de capacités physiques, étaient parfois tellement sous le choc que restaient terrorisés en voyant le groupe. Dans d'autres cas, on a eu des gens plus réactifs qui se sont davantage rebellés. Parfois, ils avaient une bombe lacrymogène. Il est arrivé qu'ils aient des marteaux pour ouvrir les portes ou des choses. Voilà. Donc ça a été de la bagarre violente, ça a été des coups, ça a été de la lacrymogène, des coups de barre. Dans certains des cas, effectivement, ça a été très violent.
Les enquêteurs ont su très vite que certains des suspects agissaient après s'être shootés avec du protoxyde d'azote, ce gaz censé être hilarant que l'on trouve dans les cartouches de recharge pour la chantilly, par exemple. Des suspects qui, en garde à vue, n'ont pas vraiment compris où était le problème.
Pour eux, c'est très simple, c'est la fin justifie les moyens. Il n'y a aucun état d'âme.
Au total, la bande de délinquants aurait commis près d'une cinquantaine de braquages à domicile en l'espace de quelques semaines.
Emmanuel Leclerc. L'une des écrivaines les plus vendues au monde, l'américaine Mary Gaines Clark, est morte à 92 ans. 38 romans à suspense, des nouvelles et en France plusieurs prix, dont le Grand Prix littérature policière en 1980.
Du polar à la BD.
Angoulême, évidemment, festival marqué hier par un rassemblement d'auteurs qui dénonçaient la précarisation de leur profession. Lui n'est pas vraiment dans ce cas aujourd'hui. Jean-Pierre Gibras, certaines de ses planches se vendent à plusieurs dizaines de milliers d'euros aux enchères. Il était hier à Angoulême, sa séance de dédicace a même fait l'objet d'un tirage au sort. Reportage Laetitia Gaillet.
Une BD de Gibras en main, ils sont plusieurs dizaines à attendre.
On va y aller. Le premier, Patricia Tonnelier.
Trop heureuse, vraiment, c'est super.
Patricia fait partie des 12 heureux élus qui auront leur dessin sur la centaine de candidats qui en rêvaient. On est bien loin des débuts où Jean-Pierre Gibras, lui, était encore un inconnu.
Le pire, ça a été une fois à Genève, et c'était juste avant que je fasse le sursis, et c'est cet album-là qui a changé ma vie. Le samedi, j'ai fait 2 dédicaces, je crois, et le dimanche, 0. J'ai trouvé un peu le temps long.
Les cheveux ont blanchi, le dessin s'est épanoui. Gibras est un auteur qui aujourd'hui se délecte de ces moments, jusqu'à faire le show.
On vous entend pas, là, vous putain.
Et après, se mettre au travail.
Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?
Cécile, s'il vous plaît.
Jean-Pierre Gibras est du genre bavard. Il parle, lâche le crayon, reprend le crayon. Une demi-heure plus tard...
pour Patricia, donc.
C'est possible d'ajouter Jérôme aussi ?
Le rêve pour Patricia est réalisé.
Ah bah c'était aussi plaisant que prévu.
Tout à l'heure, vous portiez votre album
à serrer dans les bras comme un trophée. Oui, oui, quand on a été fan de quelqu'un très longtemps, surtout sans le rencontrer, l'album, en fait, c'était lui quelque part, je crois.
Patricia repart, Jean-Marc prend sa place et Gibra lui continue d'alterner crayon, bavardage, crayon, bavardage. Angoulême, Laetitia Gaillet, France Inter.
Oui, le festival de BD, c'est jusqu'à demain.
C'était le journal d'Estelle Schmitt. À 8h10 sur France Inter, on accueille Clément Comte. Bonjour Clément.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
C'est l'heure des sports. Avec l'Open d'Australie qui touche à sa fin, c'est du tennis, avec une finale dames surprenante ce matin tout à l'heure.
Oui, finale inédite en tout cas. D'un côté, l'Espagnol Garbiñe Muguruza, 32e au classement mondial. De l'autre, Sofia Kenin, l'Américaine de 21 ans, assez méconnue du grand public, Fabrice Abgral.
Alors elle, personne ne l'avait prévue à ce niveau, mais c'était peut-être oublié un peu vite que cette Américaine d'origine russe, née à Moscou il y a 21 ans, fait partie depuis 4 mois des 15 meilleures joueuses du monde. Ça n'en faisait pas forcément au départ une prétendante au titre, mais Sofia Kenin a su profiter des circonstances. Au fil des tours, son tableau s'est dégagé et elle a avancé dans le tournoi sans affronter la moindre tête de série avant les demi-finales où là, contre toute attente, Sofia Kenin a éjecté la numéro 1 mondiale, l'Australienne Ashleigh Barty. Si Sofia Kenin est à ce niveau, c'est aussi parce qu'elle produit un tennis d'une extrême solidité. Sur un court, elle sait tout faire et tout plutôt très bien, sans que ce soit exceptionnel ni spectaculaire. Sa marque de fabrique, c'est la rage de vaincre. Sofia Kenin est une joueuse fougueuse et pleine de certitudes. En revanche, elle va découvrir la pression d'une première finale d'un tournoi majeur, elle qui jusqu'à présent n'avait jamais dépassé les huitièmes de finale en Grand Chelem. Si elle remporte l'Open d'Australie, Sofia Kenin grimpera à la 7e place mondiale. Melbourne, Fabrice Abgral, France Inter.
La finale dames de l'Open d'Australie entre Sofia Kenin et Garbiñe Muguruza, c'est ce matin, début du match à 9h30. Lui a déjà inscrit son nom au palmarès de l'Open d'Australie, version junior. Le Messin Harold Maillot a remporté la finale hier face à Arthur Cazot en 2-7, 6-4, 6-1. Deux Français en finale, la relève est bien là et n'allez pas dire le contraire à Harold Maillot.
Ça me saoule, oui, parce que encore une fois, la vérité, elle est pas là du tout. Voilà, on a une génération en or. J'espère qu'on va dire du bien du tennis français parce qu'on bosse vraiment dur. Faut arrêter aussi de croire que les jeunes ne bossent pas dur parce que c'est faux, on bosse vraiment dur. J'espère qu'on pourra vraiment montrer aux gens qu'on est des bons joueurs et qu'on aura un vainqueur de Grand Chelem assez vite.
Le football est retour en France donc et en Bretagne précisément avec les Rennais vainqueurs du derby jusqu'au bout du suspense.
22e journée de Ligue 1, victoire des Rouges et Noirs face à Nantes 3-2, deux buts dans le temps additionnel, incroyable pour Fethou Mawassa, latéral gauche Rennais.
C'était un match avec beaucoup d'intensité, plein de rebondissements. Forcément à la fin quand il y a la victoire, on est obligé de d'extérioriser et c'était un bon moment. Ouais, scénario de fou, on y a cru jusqu'à la fin et ça a payé, au final on en a remporté le match. C'est une joie différente, c'est un derby, et un derby ça se gagne et quand on le gagne de cette façon, il y a encore plus d'émotion.
La suite de la 22e journée, le Paris Saint-Germain reçoit Montpellier tout à l'heure à 17h35. Les affiches du soir, Angers-Reims, Amiens-Toulouse, Dijon-Brest, Nîmes-Monaco et Strasbourg-Lille. Ce dernier match en Alsace, justement, sera arbitré par Stéphanie Frappard, la seule femme pour le moment en jaune sur les terrains de Ligue 1. Et c'est notre coup de projecteur ce matin dans le cadre du week-end sport féminin. Les médias vous proposent des éclairages, des reportages là-dessus et sur l'arbitrage. Le constat est simple, Cédric Guillou, les femmes sont peu nombreuses.
La Coupe du Monde féminine de football a boosté le nombre de joueuses, d'éducatrices, mais pas forcément d'arbitres femmes. Seulement 4% dans le milieu du football en France aujourd'hui. Stéphanie Frappard, la plus connue d'entre elles, a son idée sur le sujet.
L'explication, moi je pense qu'elle vient que plus on aura de joueuses, plus on aura de dirigeantes et plus on aura d'arbitres. Donc forcément, la première étape c'était d'avoir plus de joueuses. On a plus de dirigeantes et maintenant on commence à avoir plus d'arbitres. Là, en moins d'un an et demi, de 700 à 1000. Par contre, il faut se donner un peu de temps, donc tout va bientôt arriver.
Celles qui franchissent le pas sont donc rares. Lucie Blancal, 28 ans, l'a fait il y a 2 ans, en septembre 2017, alors qu'elle n'avait jamais joué au football. Elle a décidé de se lancer dans l'arbitrage.
Ce qui était au départ une boutade est devenu quelque chose de concret après quelques hésitations, puisqu'un jour j'ai fini par recevoir le dossier d'inscription par mail. Je ne l'ai dit à personne pendant un an. Personne n'a été au courant, mes propres parents n'étaient pas au courant que j'arbitrais. Moi je voulais voir si ça allait vraiment me plaire, parce qu'un match ça me plaît très bien, mais est-ce que sur le long terme ça me plaît vraiment ?
Et ça lui a plu. Lucie Blancal siffle en Ligue régionale d'Île-de-France tous les week-ends, dirige aussi bien des femmes que des hommes, et a évidemment comme modèle Stéphanie Frappard, heureuse aujourd'hui de susciter quelques vocations.
Un reportage signé Cédric Guillot.
Les amateurs de rugby seront massivement devant leur télévision aujourd'hui car c'est le début du tournoi des Six Nations.
Avant le crunch demain, France-Angleterre, place aux deux autres matchs cet après-midi. Le Pays de Galles face à l'Italie à 15h15 et l'Irlande contre l'Écosse. Là, c'est à 17h45. On vous en parlait sur France Inter cette semaine. Les révélations de Sarah Abitbol, la patineuse, accuse son ex-entraîneur de viol et d'agression sexuelle dans un livre paru jeudi. Eh bien, Gilles Beyer, l'homme concerné, lui a présenté ses excuses dans une déclaration transmise à l'AFP. Il concède avoir eu des relations intimes et inappropriées. Des mots que rejette Sarah Abitbol dans une courte déclaration à l'Obs. Et puis, autre polémique terminée, celle-là sur les Vaporfly de Nike. Ces chaussures avec une lame de carbone dans la semelle qui ont permis à plusieurs coureurs de marathon de battre des records. Elles seront finalement autorisées pour les prochains Jeux à Tokyo. Décision de la Fédération Internationale d'Athlétisme. Les nouveaux prototypes de chaussures, par contre, seront maintenant contrôlés par des experts.
C'était le journal des sports de Clément Comte.